En cette fin d'après-midi, je souhaiterais vous dire un mot sur la messe et la communion. Il nous faut considérer, eh bien, la messe, comment vivre sa messe chaque jour un peu mieux, ou chaque dimanche un peu mieux, et comment nous pouvons, eh bien, participer activement au Saint-Sacrifice de la messe, bon, d'abord et avant tout par la communion, communion sacramentelle. Le pape Saint-Pédis disait ceci le 22 novembre 1903, c'était à l'occasion de la Sainte Cécile, patronne des musiciens. Le véritable esprit chrétien trouve sa source première et indispensable dans la participation active des fidèles au mystère sacro-saint et à la prière publique et solennelle de l'Église. Le véritable esprit chrétien, sa source première et indispensable. Bon. Participation active, vous voyez tout ça. C'est pas facultatif. Saint-Pédis, quand même, c'est une autorité dans le domaine de la liturgie, c'est une autorité. C'est à son époque qu'on a restauré de manière extraordinaire le chant grégorien à l'époque de donc solennel fin 19e siècle. Saint-Pédis a ratifié en quelque sorte les travaux des bénédictins de Solesmes. Et il y a les débuts du mouvement liturgique étaient bons, tout le début du mouvement liturgique sous l'influence des bénédictins de Solesmes. Les encouragements répétés de Saint-Pédis. Il y a un grand renouveau liturgique au début du XXe siècle. Et puis Pie XII aussi, en 1958, dans un texte qui s'intitule « De musica sacra », on veillera soigneusement à ce que les fidèles n'assistent pas à la messe comme des étrangers ou des spectateurs muets, mais qu'ils lui apportent la participation requise par un si grand mystère et qui est source de fruits très abondants. La participation des fidèles est plus complète si à l'attention intérieure s'ajoute la participation extérieure manifestée par des actes extérieurs comme la position du corps à genoux, assis, debout, les gestes rituels et surtout les réponses, les prières et les chants. C'est bien l'esprit de l'Église. Alors je vous propose de considérer dans un premier temps la valeur du sacrifice de la messe. On verra ensuite les fruits de la messe. Ce sera considéré relativement à Dieu, qu'est-ce que la messe apporte à Dieu et puis qu'est-ce que la messe apporte aux fidèles, aux âmes. Qu'est-ce que je peux retirer de l'assistance à la messe, de ma participation active à la messe? Précisément, le troisième point sera eh bien ma participation active. On donnera finalement cinq exemples de la manière dont on peut participer plus activement à la messe. Et puis, je terminerai en vous donnant quelques citations de Sainte Gertrude. C'est un petit peu le fil rouge de la retraite, en tout cas pour mes prédications. C'est ma référence cette année. Bon. Sainte Gertrude, une grande sainte. Alors la valeur du sacrifice de la messe, il faut d'abord considérer que vous le savez, le Saint-Sacrifice de la Messe, c'est le renouvellement non sanglant, de manière non sanglante, du sacrifice unique de la croix. Il n'y a qu'un seul sacrifice, finalement. La messe ne multiplie pas le nombre de sacrifices. Il n'y a qu'un seul sacrifice, c'est le sacrifice de la croix. La messe, c'est le renouvellement de ce même sacrifice, de cet unique sacrifice, de manière non sanglante. C'est le Concile de Trente qui rappelle cela. Le Concile de Trente, c'est le XVIe siècle, donc c'est l'époque où il devient nécessaire de réformer l'Église. Il y a deux façons de le faire. Il y a la façon des protestants, c'est une révolte violente, orgueilleuse. Et puis il y a la façon de ceux qui ont le véritable esprit chrétien, les catholiques, qui voulaient cette réforme. Cette réforme était nécessaire. On a appelé ça donc la contre-réforme catholique, issue du Concile de Trente. Il y a un certain nombre de réformes qui ont été faites et qui étaient bonnes, bénéfiques. Bon. Mais le Concile de Trente a dû rappeler un certain nombre de vérités, notamment sur la messe, puisque précisément le Saint-Sacrifice de la messe était spécialement attaqué à ce moment-là. Et le Saint Concile de Trente dit ceci, donc c'est le même sacrifice en substance que celui de la croix. Pourquoi ? Parce que d'abord et avant tout, c'est le même prêtre. C'est le même prêtre. Et le rite de la messe à laquelle vous êtes habitué, la messe dite de Saint-Pie V, la messe de toujours, la messe traditionnelle, ce rite est à la fois très riche et puis très sobre. Normalement, on ne voit pas le prêtre des grands gestes. Non. Il vit bien normalement. Normalement, si on suit bien les rubriques, c'est très précis. Les bras doivent s'écarter. Pas plus large que ça. C'est la largeur des épaules. Pas plus haut que les épaules. Non, bon, on n'est pas tout le temps en train d'y penser quand même. Hein. Ça devient un bon automatisme, au sens où ça a été tellement réfléchi, médité, répété, que bon, on n'y pense plus. Mais ceci dit, une grande richesse, une grande sobriété en même temps. Pourquoi ? Parce que l'homme qui est là à l'autel, il doit disparaître complètement. D'ailleurs, c'est bien qu'il soit le plus souvent face à la croix, face à l'autel, et qui finalement, il vous tourne le dos. C'est une bonne chose. Moins on le voit et mieux c'est, d'une certaine manière. Puisque c'est notre Seigneur Jésus-Christ, le prêtre principal à la messe. C'est lui qui est en train d'offrir le sacrifice. Bon. C'est le même prêtre, c'est aussi la même victime. Ça, on le sait, mais il est bon de le rappeler. C'est la même victime. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui s'offre sur la croix. Il est à la fois le prêtre et la victime. Il n'y a que la manière d'offrir, donc, qui diffère. Sur la croix, il y a le corps physique de notre Seigneur, qui est immolé. Bon, notre Seigneur va faire jusqu'à la dernière goutte de son sang. Bon. À la messe, ce n'est pas son corps physique, évidemment. Son corps physique, il est au ciel, hein. Glorieux. Il ne souffre plus, hein. C'est un corps glorieux, magnifique. Tel que la Sainte Vierge, tel que Sainte Marie-Madeleine et les apôtres l'ont vu après la résurrection. C'est un corps glorieux aussi. Bon. Mais ici-bas, sur l'autel, donc ce n'est pas le corps physique de notre Seigneur, et pourtant il est vraiment là. Il est vraiment là. Au moment de l'offrande, il y a la double consécration. D'abord le pain qui va devenir le corps, bon. Et on dit par concomitance, pardonnez-moi le mot qui peut paraître un peu savant, par concomitance, il y a non seulement le corps, mais le sang, l'âme, la divinité, tout est là dans l'hostie. Quand vous allez communier, d'ailleurs, il ne vous manque rien. Il n'est pas nécessaire que vous communiez au calice. Ce n'est pas nécessaire en soi. Vous recevez tout, absolument tout. Bon. Donc, et le vin qui devient le sang de notre Seigneur, et donc par concomitance, j'utilise à nouveau le mot, à force de le répéter, ça va finir par rentrer. Donc, le corps est là aussi en même temps, l'âme, la divinité. Bon. Il y a cette double consécration. C'est-à-dire que si jamais il y avait seulement consécration du pain, puis là le prêtre il s'arrête. Bon. Bien, notre Seigneur il est vraiment là sur l'autel, et pourtant il n'y a pas eu de sacrifice. Il n'y a pas la réalisation du sacrifice. Le sacrifice il est réalisé après la double consécration. Donc on ne pourrait pas en rester là. Si le prêtre mourait là, entre les deux consécrations, il faudrait faire venir un autre prêtre à l'autel pour terminer la messe. Je suis bien passant. Donc on dit que le sang de Jésus n'est pas, bien sûr, physiquement répandu sur l'autel, et il est sacramentellement répandu sur l'autel. Bon. Il y a certains miracles eucharistiques ou certaines révélations privées qui permettent de voir justement le sang. On voit le sang sur l'autel, on voit la victime, on voit notre Seigneur, on voit une hostie sanglante. Si vous avez, bon, il y en a un petit peu partout dans la chrétienté. Il y en a une qui est célèbre au Portugal, à Santarém. On l'a fait vénérer aux fidèles, une hostie avec une tache sombre, qui est une tache de sang de notre Seigneur. Bon, et il y en a ailleurs aussi. Il y a de temps en temps comme ça des miracles qui sont permis par le bon Dieu pour soutenir la foi des faibles, finalement. Parce que notre foi, normalement, n'a pas besoin de cela. Un jour, Saint-Louis était dans son palais et puis a lieu précisément dans la chapelle du palais un miracle eucharistique. Une hostie qui était là en suspension dans l'air. Bon, on va le chercher immédiatement. Si il est venu vite voir, c'est extraordinaire. Mais il a refusé de venir voir. Ma foi n'a pas besoin de ce miracle. C'est héroïque, hein. Comment est-ce que nous aurions réagi, nous? Nous serions sans doute allés voir. Bon, en soi, ce n'était pas une mauvaise curiosité. Si le bon Dieu a permis ce miracle, c'est pour nous, c'est pour notre bien. Mais c'est vrai qu'en soi, c'est pas nécessaire. Bon. Alors, il y a ce passage dans l'épître de Saint Paul aux Hébreux, chapitre 7, verset 25, où Saint Paul fait référence au Christ qui ne cesse d'intercéder pour nous. Le Christ qui ne cesse d'intercéder pour nous. Et bien ça se manifeste de manière toute particulière à la messe. Cette messe qui est célébrée tous les jours. À travers la messe, eh bien, notre Seigneur intercède pour nous. Il demande des grâces pour nous. C'est très beau ça. Et se dire aussi que s'il y a eu, il y a 2000 ans, c'est daté dans l'histoire, c'est un moment précis de l'histoire, il y a l'offrande de notre Seigneur sur le calvaire. Ça n'a eu lieu qu'une seule fois. Bon. Notre Seigneur, sur le calvaire, en mourant, en achevant ses souffrances et en expirant, eh bien, il a obtenu toutes les grâces pour les fidèles. Alors, la messe, précisément, la messe qui est le renouvellement du calvaire, la messe va permettre de distribuer ces grâces, de les dispenser. C'est un petit peu, le calvaire, c'est un petit peu comme une fortune qui va s'amasser, en quelque sorte, dans un coffre, un trésor magnifique. Bon. Mais si on ne peut pas utiliser cet argent qui est dans le coffre, ça ne nous sert pas à grand-chose. Et donc la messe va permettre, tous les auteurs spirituels le disent, va permettre justement de distribuer ces richesses, toutes les grâces, tous les mérites, toutes les grâces que notre Seigneur a acquis sur la croix vont être dispensées, c'est le terme qu'on utilise, la dispensation, ou distribuées à travers la messe. Tous les fidèles, tous ceux qui sont rattachés au Christ vont pouvoir bénéficier des grâces de la messe. Non seulement, bien sûr, ceux qui assistent à la messe, mais même ceux qui sont absents et qui sont rattachés au Christ par l'amitié surnaturelle, la charité, ceux qui sont membres du corps mystique du Christ, et qui sont rattachés au Christ, vont pouvoir recevoir les grâces. Et puis, bien, les membres de l'Église souffrante, par exemple les âmes du purgatoire, vont pouvoir obtenir beaucoup de grâces. Je reviens dans un instant. Saint Angèle de Foligno, une grande mystique franciscaine du XIIIe siècle, qui est morte au début du XIVe siècle, qu'on considère comme la plus grande mystique franciscaine. Saint Angèle de Foligno, qui a une vie tout à fait intéressante, hein, une vie de patachon étant jeune, adultère, etc., une vie impossible, et puis elle a fini par la grâce de Dieu, par se convertir, et puis elle a terminé ses jours vraiment dans la pénitence, c'est magnifique. Elle a réuni quelques jeunes filles autour d'elle, et puis elles ont fondé comme une société. Bon, c'était pas cloîtré, ça se rattache plutôt au tiers-ordre, vous voyez, c'était pas cloîtré, mais en plus de la règle du tiers-ordre, elles avaient rajouté les vœux de pauvreté, chasteté, obéissance, et puis elles sortaient, elles allaient visiter les malades, comme ça. Bon, je vous invite à lire le livre de ses visions et instructions. Pourquoi? Parce qu'il est approuvé par l'Église, ça c'est la bonne piété, la bonne mystique, vous ne risquez pas de vous égarer en lisant ça. C'est très solide. Quoi. Et alors voici ce qu'elle dit entre autres. J'ai non pas la pensée vague, mais la certitude absolue que si une âme voyait et contemplait quelqu'une des splendeurs intimes du sacrement de l'autel, elle prendrait feu, car elle verrait l'amour divin. Il me semble que ceux qui offrent le sacrifice ou qui y prennent part devraient méditer profondément sur la vérité profonde du mystère trois fois saint, dans la contemplation duquel nous devrions demeurer immobiles et absorbés. Parfois on cherche des sujets de méditation. Prenons le missel, hein, l'ordinaire de la messe. Bon, on peut méditer sur le propre de la messe, puis l'oraison, la collecte secrète, la post-communion, c'est bien ça. Mais on peut aussi, pourquoi pas, on croit connaître l'ordinaire, on connaît par cœur, oui, mais est-ce qu'on l'a médité? La méditation apporte une connaissance supplémentaire, une connaissance particulière. Hein. Les vérités entrent beaucoup plus profondément en nous. Prenons les prières si belles, vraiment. On voit l'assistance du Saint-Esprit hein, dans la liturgie. Et ce ne sont pas des paroles purement humaines. Prenons les paroles de l'ordinaire de la messe les unes après les autres et méditons-les. C'est très très beau. Ça, ça nous permettra justement eh bien, ensuite d'assister avec beaucoup plus de dévotion à la messe. Oui. Ça développera notre amour, tout simplement, c'est ce que dit Saint Angèle, enfin, la bienheureuse Angèle de Foligno, elle nous invite vraiment à entrer dans le mystère. Il faut méditer, méditer sur la grandeur du Saint Sacrifice de la messe. Une messe a une valeur infinie, une valeur infinie. Et si nous ne recevons pas autant de grâce que nous le souhaiterions, et bien c'est parce qu'il y a des freins, des obstacles en nous. Pas du côté de Dieu. Hein. Et pourtant, il faut plus de prêtres. Nous le demandons chaque jour. Seigneur, donnez-nous beaucoup de saints prêtres. Au séminaire, on nous disait, mais quand vous dites ça, pensez pas forcément aux voisins. Hein. Pensez d'abord à vous. Hein. Demandez ça au Seigneur. On demande de saints prêtres. Bon. Et c'est vrai, il nous faut beaucoup de saints prêtres, il nous faut cette multiplication des messes un peu partout dans le monde. Nous devons considérer, si vous voulez, que le sommeil, donc je disais que le sommeil, hier ou avant-hier, le sommeil est un peu l'image de la mort. Bon. Alors en début de journée, si on peut assister à la messe, c'est un peu le soleil de notre journée, le soleil de notre vie, qui à la fois illumine notre intelligence, nous réjouit, et puis nous apporte cette chaleur, vous voyez, dans notre cœur. Nous assistons à la messe, et normalement nous avons plus de charité, même si nous n'avons pas communié, nous avons plus de charité après, normalement. Nous avons pieusement assisté à la messe. Alors précisément, quels sont les fruits? Quels sont les effets du Saint-Sacrifice de la messe? Quels sont les fruits? Il y a d'abord des effets qui concernent Dieu. La messe, bon, apporte quelque chose à Dieu, non pas que Dieu ait besoin de quoi que ce soit. Hein, mais là, on est dans le domaine de la religion, le culte qu'on rend à Dieu. Or, le culte de religion le plus haut, c'est le Saint-Sacrifice de la messe. C'est aussi l'acte le plus élevé de la contemplation, disait Saint Vincent Ferrier. Alors, relativement à Dieu, la messe va apporter à Dieu nos hommages hein, en justice. Hein. Ce sont les actes, c'est l'acte de religion le plus haut. C'est une adoration. Adoration réparatrice. C'est une prière qui est complètement désintéressée. D'abord et avant tout, c'est pas à moi que je pense. Si je pense à Dieu, je suis tourné vers Dieu, il n'y a que les intérêts de Dieu, en quelque sorte, qui occupent ma pensée. Voilà. Eh bien, la messe, c'est d'abord l'adoration de Dieu. C'est très beau, hein, la prière d'adoration. Nous devons y penser davantage. Bon, non pas qu'il ne faille pas demander, Notre Seigneur nous a donné suffisamment de comparaisons, de paraboles, d'exemples. Il nous a même donné le Notre Père, il nous enseigne les prières, il nous enseigne à demander. Il faut demander beaucoup de choses à Dieu. Mais la première des prières, ce n'est pas une prière de demande, c'est une prière d'adoration. C'est complètement désintéressé. Je suis là, je ne pense pas du tout à moi, je suis en admiration pour la sainteté de Dieu. Un peu comme un cierge qui brûle devant l'autel. Pourquoi est-ce qu'on fait brûler un cierge? Parce que ça ne sert à rien, justement. Je ne recherche pas une utilité particulière, je le fais de manière complètement désintéressée. Une offrande à Dieu. Parce que j'aime le bon Dieu. Donc l'adoration réparatrice et puis l'action de grâce. L'action de grâce. L'adoration, ben, c'est ce qu'on appelle l'adoration de Dieu, c'est le culte de l'atrie. Donc c'est vous savez qu'il y a quatre fins de la messe, on va en reparler, ben, c'est la fin qu'on appelle l'atretique. Bon, le mot peut paraître savant, on n'est pas obligé de le retenir. Donc l'atrie. Bon, vous connaissez le mot idolâtrie d'ailleurs. C'est un culte désordonné, exagéré, précisément pour des idoles. Ça, c'est un culte qui est mauvais. Et sinon, la latrie, le culte que je rends à Dieu. Voilà. Et puis, l'action de grâce. Ça, c'est valable à chaque messe. Ces effets du sacrifice de la messe sont remplis infailliblement, pleinement, à chaque fois que la messe est célébrée, même s'il n'y a aucun fidèle. Même si le prêtre est indigne, ce qu'à Dieu ne plaise, même un prêtre indigne qui dit la messe, s'il l'a dit de manière valide, eh bien, ces deux effets de la messe sont produits infailliblement. Dieu merci. Bon. Et puis, il y a les effets qui sont relatifs à nous, ceux qui nous concernent. Et alors là, c'est différent. Autant pour Dieu, les effets étaient obtenus infailliblement, pleinement. Autant pour nous, ça dépend de nos dispositions intérieures. Deux personnes qui assistent côte à côte à la messe ne vont pas recevoir autant de grâce. Bon, c'est vrai, au moment où elles vont aller communier, mais déjà simplement le fait d'assister à la messe, de participer activement, de suivre pieusement la messe, bon. Elles n'ont pas les mêmes dispositions intérieures, elles ne recevront pas autant de grâce. Ça, c'est une vérité à laquelle il faut penser. Ça veut dire que, eh bien, demain, il dépendra de nous, avec la grâce de Dieu, de pouvoir obtenir beaucoup plus en assistant à la messe. Par exemple, à la messe, nous souhaitons obtenir le pardon de nos péchés. C'est vrai que si nous disons pieusement le Confiteor, si nous disons pieusement Agnus Dei, Putolis Peccata Mundi, Parche Nobis Domine, on assiste pieusement à la messe, c'est vrai qu'on obtient le pardon de bien des péchés. On a une vraie contrition normalement si on assiste à la messe, de manière intelligente, consciente. On a une vraie contrition. Quoi, c'est comme si on était là au calvaire. Bon, notre Seigneur est en train de s'immoler pour nous. Bon. Donc on peut obtenir le pardon de ses péchés. D'ailleurs, vous voyez, le bon larron sur la croix, eh bien, il assiste pieusement à l'immolation du Christ et il obtient le pardon de ses péchés. Eh bien, c'est la même chose pour nous, normalement, à la messe. Nous devrions être le bon larron, justement, qui assiste à la mort du Christ sans foi. Bon. Ce qu'il faut dire, c'est que en assistant pieusement à la messe, nous pouvons obtenir une diminution, même la suppression, on peut le souhaiter, une diminution, la suppression totale de ce que vous avez dont je vous avais parlé, la peine temporelle. Oui. Celui qui recouvre l'état de grâce après avoir éteint l'état de péché mortel, bon, la peine éternelle est supprimée, il n'ira pas en enfer. Mais il reste cette peine temporelle. Il faut expier ici-bas ou dans le purgatoire. Et bien, celui qui assiste pieusement à la messe peut obtenir la réduction de cette peine temporelle. Pour lui-même, et puis pour les défunts. D'ailleurs, vous le savez bien, c'est pour ça qu'on fait célébrer la messe pour les défunts, les fidèles trépassés. C'est parce qu'il y a une efficacité dans le sacrifice de la messe qui obtient des effets pour les âmes du purgatoire, qui va réduire justement cette peine temporelle, abréger le temps qu'elles vont passer au purgatoire. On n'en est pas encore là, nous. Souhaitons ne jamais y aller, souhaitons aller directement au ciel. Nous, ce qui nous concerne, c'est cette peine temporelle qui doit être diminuée ici-bas déjà. Voilà. Et puis, pour nous éviter, eh bien, d'aller au purgatoire. Donc, si on assiste pieusement à la messe, on obtient cet effet. Et cet effet, il dépend, là encore, de nos dispositions. On reçoit plus ou moins. Bon. De même, nous demandons beaucoup de grâce à la messe. On peut d'ailleurs faire dire une messe pour la guérison d'une personne, pour la conversion d'une autre. Au mois de mai ou au mois de juin, il y a pas mal d'étudiants qui viennent nous voir. Pour faire dire des messes pour la réussite aux examens. Après, on ne les revoit plus. Hein. On ne sait pas s'ils ont réussi ou pas. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de messes d'action de grâce. Ça, c'est valable pour tout le monde, pas seulement pour les étudiants. Hein. On demande beaucoup avant, puis après, quand on a reçu, on estime peut-être que c'est un dû. Voilà, j'y avais droit. Alors. Bon. Non, et cet esprit là. L'action de grâce, sachant être reconnaissant, hein, faisant preuve de gratitude envers le bon Dieu. En tout cas, on demande beaucoup de choses à la messe, c'est certain. Bon, eh bien, on obtiendra plus ou moins en fonction de nos dispositions. Important, ça. Que si vous, justement, si vous êtes spécialement attaché à une grâce que vous demandez pour vous-même ou pour le prochain, et vous serez plus ou moins exaucé. Et ça dépend de vous, hein. Ça dépend de vous. Alors comment avoir cette participation active à la messe et à la liturgie? Je disais qu'il y avait peut-être cinq manières de participer davantage, plus activement à la messe. Lorsqu'il s'agit d'une messe chantée ou d'une messe solennelle, eh bien il y a le chant. Oh, mais moi je ne sais pas chanter. J'ai appris au séminaire, et je veux bien le croire, j'ai confiance en celui qui nous a enseigné ça, il y a peut-être 5% des gens qui sont inaptes au chant, totalement inaptes. En général, c'est à cause de problèmes de surdité. Et quand on entend mal, on ne peut pas bien chanter. Bon, 5%, hein, c'est pas beaucoup. Ça veut dire que tous les autres, à un moment, avec un peu d'exercice, plus ou moins de facilité, mais avec un peu d'exercice, sont capables de chanter. Ça ne veut pas dire que nous devons tous nous réfugier au fond de la chapelle pour constituer la chorale. D'ailleurs, il n'y aurait pas assez de place, on se marcherait les uns sur les autres. Non, il y a toujours eu la nef remplie de fidèles et puis la chorale. Bon. Un petit groupe à part, ça a toujours existé, c'est entendu. Maintenant, ne nous déchargeons pas totalement du chant sur la chorale. Ça, c'est anormal. Ça dénote un manque de piété, un manque de dévotion, un manque d'amour de la liturgie. Vraiment, faisons un effort pour chanter. Bon. Et si on sait qu'on a un timbre de voix qui n'est pas très agréable, ne chantons pas trop fort, c'est tout. Le chant mélodieux des anges, c'est réservé au ciel. Hein. Bon, ne soyons pas trop perfectionnistes ici-bas. Allons-y de bon cœur, participons par le chant. En tout cas, le minimum, vraiment le strict minimum, c'est le Kyrielle. Kyrielle, le Kyrielle, le Credo. Puis on répond au prêtre aussi. Bon, ça, j'en parlerai dans un instant. Mais le chant, dans la mesure du possible, essayons de chanter. Qui chante, prie deux fois. Enfin, j'ai tendance à dire qui chante bien, prie deux fois. Et sinon ça peut casser les oreilles à tout le monde et ça peut nuire au recueillement. Mais quand même, je crois qu'il y a beaucoup de timidité, de crainte exagérée, de crainte excessive. Donc on éprouve de grandes joies dans le chant. Et le plus beau des instruments de musique, c'est la voix humaine. Hein. Si vraiment notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit, et donc chanter. Spécialement les textes liturgiques inspirés par l'Esprit Saint, eh bien, la plupart des auteurs disent que c'est un sacramental. Vous ouvrez votre 800, là, votre livre de messe, prenez une pièce, là, ou même tout seul d'ailleurs, si vous chantez un peu, là, vous êtes un peu dans la désolation, allez hop, vous allez prendre une pièce de Noël ou de Pâques, là, tout de suite ça. Ça va bien mieux après. Bien sûr, je l'ai expérimenté. En période de révision au séminaire, quand on est un petit peu en isolation avant les examens, hop, les gars au DT, les tarés, etc. Ça va tout se mieux après. Expérimenter ça, hein. Le chant grégorien en particulier, c'est un sacramental. C'est-à-dire que lorsqu'il y a ce souffle de voix qui passe à travers vos lèvres, il y a des grâces en même temps que vous apportez aux autres et que vous recevez vous-même. Au même titre qu'un signe de foi ou que l'usage de l'eau bénite, c'est vrai. Hein, bon. Donc le chant. On peut participer activement aussi alors à la messe lue, la messe basse ou la messe dialoguée. Bon, c'est pas vrai dans tous les pays. Il y a des pays où ce n'est pas l'usage, mais en France, c'est l'usage. Il y a ce dialogue avec le prêtre. Il sort de la sacristie, la chapelle est à moitié pleine. La première fois qu'il se retourne pour le premier Dominus Vobiscum, là, la chapelle est pleine. Formidable. Dominus Vobiscum. Ben, il ne faut pas que simplement les quelques chaisières qui sont devant répondent « Et cum spiritu tuo ». C'est tous d'une même voix. « Et cum spiritu tuo ». Sinon, enfin, le rite prévoit qu'on se retourne, mais sinon on ne se retournerait pas. Hein. Non, il doit vraiment y avoir ce dialogue avec nous. C'est voulu par le rite. Il faut comprendre, avoir cette intelligence du rite. Bon. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. D'une seule voix. Beaucoup d'enthousiasme. La messe dialogue. Donc, relisez ben, justement l'ordinaire de la messe. Vous voyez à quel moment vous devez intervenir. En général, c'est marqué en caractère gras pour vous. Il ne faut pas se tromper, hein. Bon. En principe, le prêtre est tout seul pour dire le paternoster. Hein. Vous ne sentez pas obligé de le dire avec lui. Dans certaines paroisses, c'est le cas, mais bon, il vaut mieux que ce soit le prêtre tout seul. Mais sinon, tout ce qui dépend de vous, vous devez participer. Bon. Ce n'est pas facultatif. Hein. On dirait pour certains, c'est le cas. C'est pas facultatif, je suis désolé. Bon. On n'assiste pas à un spectacle. D'ailleurs, le prêtre nous tourne le dos tout le temps. Voilà. C'est normal, on est tous dans la même direction. Dans la direction de l'autel, dans la direction de la croix. Pour tourner vers l'autel, c'est pas un spectacle. Ça peut être joli, effectivement, à regarder. On peut se laisser prendre par le spectacle. La pompe de la liturgie, c'est extraordinaire, bon. Mais c'est pas essentiel, ça. C'est pas essentiel. Ça, c'est surtout pour la consolation des fidèles. Hein. C'est pas essentiel, ça. Donc, participons activement à la liturgie. Donc ça c'était le deuxième moyen. Troisième moyen, ben, suivre la messe dans son missel. C'est bien d'avoir le missel pour assister à la messe. Ce serait dommage d'avoir le nez dans le missel du début jusqu'à la fin. Ça, ce serait vraiment dommage. Spécialement lorsque c'est la semaine sainte, par exemple. Donc lisons, méditons les textes avant. Il faut les connaître avant. Il ne faut pas les découvrir au dernier moment. Parce qu'assister à la vigile pascale en ayant le nez dans son missel du début jusqu'à la fin, c'est triste. Ben, c'est triste, vraiment. Donc, de temps en temps, on jette un coup d'œil, mais on regarde l'autel. On écoute le chant, on participe, on chante aussi. Ça ne veut pas dire qu'il faut regarder à droite et à gauche, et puis se retourner quand on entend la porte d'entrée qui grince pour voir qui est arrivé en retard. Non. On est toujours tourné vers l'autel. Mais le missel est utile, hein. Le missel est utile. Les missels sont bien faits. Ce beau missel qu'on nous a offert le jour de notre première communion, peut-être. C'est un missel qu'on garde toute sa vie, à la différence des missels jetables, des messes nouvelles. Un missel jetable. Souple, papier recyclé, ça fait peau, ça. Et puis, à la fin de l'année, on ne le garde pas, on le jette. C'est dommage. Le missel, on le garde toute sa vie. Quatrième participation, les gestes. Les attitudes rituelles. Bon, il se peut effectivement que pour des raisons de santé, on ne puisse pas être longtemps à genoux, par exemple. Bon, dans ce cas, on s'assoit. C'est entendu. Maintenant, si on le peut, alors c'est bien de faire les gestes tous en même temps, au même moment. Tous debout, tous à genoux, tous assis. C'est bien, c'est beau. Il doit y avoir cet ordre. Donc, comme un seul homme. Ça, c'est beau. Faisons cela tous ensemble. Ça sert à rien d'être trop rapide ou trop lent. Enfin, c'est comme dans les prières. Il y a des gens parfois qui ont un malin plaisir d'être toujours un petit peu avant les autres. Vous en connaissez tous dans vos chapelles. Mais non, il n'y a aucune raison. Il ne faut pas se singulariser. Dans la liturgie, d'ailleurs, il ne faut pas se singulariser. Bon. Donc les mêmes gestes au même moment. Et puis cinquième manière, bon, elle arrive en dernier, mais c'est pas la moindre, hein, c'est la communion. Participation active à la liturgie, la communion. D'abord et avant tout la communion sacramentelle. Le fait de se présenter à l'autel et de recevoir sur la langue, pieusement, la sainte hostie. Bon. L'hostie, d'ailleurs, je le dis entre parenthèses, va de la main du prêtre à la bouche du fidèle. Donc ne vous précipitez pas. Parfois ça arrive, hein. Ça fait peur, ça. Hein. Non. Vous attendez tranquillement. Vous ouvrez la bouche largement. Vous tirez la langue. Le prêtre dépose délicatement l'hostie sur votre langue. Mais si je le dis, c'est parce que c'est pas si évident. Hein. Normalement, les enfants qu'on a au catéchisme, on leur apprend ça. Préparation à la première communion. Bon, donc ils savent, c'est pour la vie après. Si on n'a pas appris ça étant jeune, on peut avoir pris des mauvaises habitudes. Il faut faire attention, ça va bien mourir. Hein. Bon. Bon, il faut se connaître aussi. Moi, une fois, j'ai eu un dentier là qui a... Dans ces cas-là, pour rester serein et ne pas sourire, il faut avoir une grâce spéciale. Et il faut passer très vite au fidèle suivant. Mais ceci dit, non, je vous le dis, ça peut paraître un détail, mais il faut bien ouvrir pour que le prêtre puisse déposer délicatement l'hostie. Bon, c'est important. Hein. Donc, ayez cette charité pour le prêtre. Hein. Pour le prêtre. Ne soyez pas trop fardé non plus. Je dirais pas ça dans une retraite d'homme, évidemment, mais... Une fois, c'était... Je crois que c'est Monseigneur Ducos Bourget, à Saint-Nicolas, qui, au moment de distribuer la communion à une dame, s'est adressé à l'hostie en disant « Attention, Jésus, attention à la peinture !» Bon. Bon, voyez l'idée, hein, vous avez compris de quoi je parle. Nous avons déjà considéré la grandeur du baptême. Par le baptême, nous sommes incorporés à notre Seigneur Jésus-Christ, nous ne faisons qu'un avec lui. Cette grâce initiale, cette grâce sanctifiante qu'on reçoit pour la première fois, elle doit se développer. Elle va se développer par la prière quotidienne, par les bonnes actions vertueuses, méritoires. Et par les sacrements. Les sacrements sont les canaux privilégiés de la grâce. Sacrement de pénitence, on l'a vu déjà, et sacrement d'Eucharistie. Je parlais de confession régulière, et cela s'applique tout spécialement à ceux qui communient souvent. Celui qui communie tous les dimanches, il est normal qu'il se confesse tous les mois. Ça paraît normal. C'est pas strictement obligatoire, mais ça convient. Celui qui communie tous les jours, il peut éventuellement se confesser plus souvent, tous les 15 jours, par exemple, pourquoi pas. Voyez l'idée qui, puisqu'on doit avoir de bonnes dispositions pour pouvoir faire une communion fructueuse, fervente. Deux personnes qui se présentent au même moment au banc de communion ne reçoivent pas du tout, mais pas du tout, les mêmes grâces. Il peut y avoir un rapport de 1 à 100 ou de 1 à 1000, ça dépend vraiment de nos dispositions intérieures. Alors, je parle évidemment des personnes qui sont en état de grâce. Et voyez l'idée. Nous devons avoir des communions de plus en plus fructueuses. Attention à la routine dans ce domaine. Hein. Attention à la routine. D'ailleurs, je vous donne un conseil. Si jamais vous assistez à la messe en famille, papa, maman, et puis les 12 enfants, non, pas forcément. Hein. N'allez pas forcément communier tous ensemble. Habituellement, tous ensemble. Parce que le jour où l'un ou l'autre des membres de la famille, ça peut être le papa, ça peut être la maman, ça peut être l'un des enfants, pour une raison ou pour une autre, n'a pas les dispositions nécessaires pour communier, eh bien, il pourrait y avoir un tel respect humain qu'il irait quand même communier. Il ferait une communion sacrée. Bon. Dans nos écoles, on ne va pas communier rangée par rangée. Ils vont communier ceux qui veulent. On se lève quand on veut, on va communier. Et puis, on ne regarde pas ceux qui ne vont pas communier. On peut avoir mille raisons de ne pas communier. C'est pas forcément parce qu'on a tué père et mère, non. Ça, c'est important, parce que attention au respect humain, hein, et attention donc à ne pas tomber dans la routine, cette habitude de toujours communier au même moment, au même endroit, avec les mêmes personnes. Et alors, oui, Attention à ça, hein. Donc de temps en temps, eh bien, on peut très bien. On, d'abord, on laisse une grande liberté, les enfants, ils se lèvent, ils vont comme ils veulent, on ne les pousse pas. Et puis, puis de temps en temps, on peut s'abstenir. Et dans les exercices Saint-Ignace, au début de la retraite, on s'abstient. Bon. Ben, je vous assure que, justement, lorsqu'on prépare une confession et qu'on médite un petit peu sur la mort, l'enfer, tout ça, eh bien, je dirais que c'est pédagogique. On aimerait pouvoir communier, et puis on n'y va pas ce jour-là, eh bien on en éprouve une souffrance. Et cette souffrance, elle est bonne. À mon avis, c'est bien de l'expérimenter de temps en temps. De temps en temps, attention, on ne tombe pas dans le travers inverse. Et de temps en temps, s'abstenir comme ça, alors qu'on pourrait aller communier. On offre ça ben, en expiation, par exemple, des communions sexuelles, en réparation, en esprit de réparation. Il ne faudrait pas en faire une généralité, ça doit être une exception, ce genre de choses. Mais de temps en temps, c'est une bonne chose. C'est un petit conseil que je vous donne. La communion, nous recevons vraiment Jésus. Il ne nous manque rien, Dieu est là. Bon, il y a même toutes les trois personnes de la Sainte Trinité, évidemment, c'est pas Jésus tout seul. Nous recevons Dieu dans notre cœur. Un accroissement de grâce, la rémission de bien des péchés véniels, un plus grand désir de sainteté. Nous devenons un tabernacle pendant un quart d'heure environ. Les espèces sacramentelles restent en moyenne un quart d'heure en nous. Nous sommes un tabernacle à ce moment-là. D'où l'importance de l'action de grâce. Bon, l'action de grâce, elle commence à partir du moment où on reçoit Jésus sur les lèvres. D'accord ? Et après, pendant un quart d'heure, on a encore la présence réelle des espèces sacramentelles en nous. Et comme c'est important hein, de remercier le Seigneur. Alors, je vous donne deux ou trois citations là, de Sainte Gertrude au sujet de la Sainte Eucharistie. Parce que Sainte Gertrude avait un grand désir d'aller au ciel le plus tôt possible. Nous aussi d'ailleurs. Nous avons un grand désir de rejoindre le bon Dieu le plus tôt possible. Et Jésus lui a dit, non, ne sois pas si pressé. Enfin, je vais vous dire exactement ce qu'il lui a dit, je ne vais pas interpréter. Elle dit alors à notre Seigneur, à quand daignerez-vous, ô Dieu souverainement fidèle, me conduire du cachot de l'exil vers le repos bienheureux? Le Seigneur répondit, et quelle est donc l'épouse à qui son peuple prépare une telle ovation qu'elle puisse se chagriner d'un délai, tandis que son époux lui prodigue caresses, étreintes et baisers? Il ne faut pas s'offusquer du langage peut-être un peu imagé de notre Seigneur. Ce sont les mots qu'il utilise pour se faire comprendre à Sainte Gertrude. Hein. Notre langage est un firme. Dans le domaine de la mystique, on a bien du mal à traduire ce qu'on vit, ce qu'on ressent, et donc on utilise des comparaisons dans le monde sensible. Il y a ce livre de l'Ancien Testament, le Cantique des Cantiques, qui au sens littéral manifeste eh bien, les joies que peuvent ressentir deux êtres qui vont se rencontrer, qui vont se fiancer, se donner l'un à l'autre. Je pense que c'était le roi Salomon et puis une jeune bergère. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout au sens spirituel. Ce que cela indique, c'est l'union de l'âme et de Dieu, union intime. Bon. Alors elle répond, et que pouvez-vous donc trouver en moi, rebut de toutes les créatures, qui vous procure des délices si grandes que vous daignez les comparer aux étreintes et aux baisers d'époux pleins de tendresse? Le Seigneur répondit, ceci que je me donne tant de fois à toi dans le sacrement de l'autel, ce qui ne pourra avoir lieu après cette vie. Et je trouve en ce don infiniment plus de délices que toute la douceur éprouvée par ceux qui, un jour, ont mis leur joie en des étreintes et des baisers charnels. Donc, c'est vrai pour les joies spirituelles en général, c'est vrai pour la joie de communier. C'est une joie spirituelle. Elle n'est pas d'abord et avant tout sensible. Donc, il est vrai que les étreintes et les baisers, ça concerne d'abord et avant tout la sensibilité. Bon. Mais il faut bien comprendre ça. Donc le fait de communier avec beaucoup de fruits apporte des joies bien supérieures, des joies spirituelles bien supérieures aux joies que peuvent connaître donc, les époux. Car le plaisir des étreintes et des baisers charnels passe avec le temps, mais la douceur de cette union par laquelle je me donne à toi dans le sacrement ne connaîtra jamais ni défaillance ni refroidissement. Au contraire, plus fréquemment elle est renouvelée, plus elle est intense et efficace. Ça nous invite donc à communier souvent, ça. Normalement, il y a de plus en plus de grâce, de plus en plus de fruits. Et donc c'est très beau parce que notre Seigneur lui dit, mais tu as très envie d'aller au ciel, oui, mais sache que tu ne pourras plus communier en quelque sorte. Bon, bien sûr, le bonheur qui nous est réservé au ciel est bien supérieur à tout ce qu'on peut imaginer ici-bas, à tout ce qu'on peut vivre ici-bas. Mais notre Seigneur lui dit, prends conscience déjà de ce dont tu bénéficies actuellement, cette communion sacramentelle. Bon, ben, ça c'est possible uniquement en cette vie. Donc apprécie les bienfaits que tu reçois déjà. Parce que ce sont des bienfaits extraordinaires, parmi les plus hauts qu'on puisse connaître ici-bas. Il y a un lien entre la Sainte Eucharistie et l'Esprit Saint. Notre Seigneur le dit lui-même. Comme elle s'avançait pour communier, le Seigneur lui parut exhaler de tous ses membres sacrés et répandre sur son âme un souffle très suave qui lui causa une joie merveilleuse, impossible à décrire. Et elle eut conscience d'avoir obtenu cette grâce en demandant avec instance les dons de l'Esprit-Saint. Demandez les dons de l'Esprit-Saint quand vous allez communier. Après la communion, elle offrit à Dieu toute la vie très sainte de Jésus-Christ pour suppléer à son insuffisance. Ça aussi, il faut le faire quand on va communier. Il faut demander à notre Seigneur de suppléer à notre insuffisance, tout ce qui manque en nous et qu'il supplée, qu'il comble finalement nos manques. Depuis l'heure en effet où elle avait reçu l'Esprit Saint dans la nouvelle naissance baptismale, jamais elle n'avait offert à cet hôte divin en son cœur et en son âme une demeure digne de lui. Cette offrande fut une provocation pour l'Esprit très suave. Oui. Donc le fait de communier attire le Saint-Esprit, rend notre âme particulièrement aimable. Le Saint-Esprit vient faire en notre âme sa demeure. Davantage encore lorsqu'on a communié. Bon. Elle invite à ne pas communier par routine. Il faut communier souvent, mais attention à ne pas tomber dans la routine. Autre est la récompense de ceux qui communient par désir et amour. Autre celle de ceux qui le font par crainte et soumission. Autre encore celle de ceux qui ont soin de se préparer à la communion. Et elle dit, mais c'est notre Seigneur qui lui révèle ça, elle dit, à aucune de ces récompenses ne peut prétendre le prêtre qui ne célèbre les mystères que par routine. Voilà. Donc il ne faut pas communier par routine, mais si, c'est une leçon pour le prêtre, hein, ne pas célébrer les mystères par routine. Parce qu'il recevra peu de grâce. Peu de grâce. Bon. Pour celles d'entre vous qui n'ont pas la possibilité, pour des raisons diverses, pour des raisons de santé entre autres, d'assister à la messe autant de fois qu'elles le souhaiteraient. Sainte Gertrude a été, comme beaucoup de grandes mystiques, a été très malade. Bon. Et elle explique justement, notre Seigneur va lui révéler qu'elle peut obtenir beaucoup de fruits faisant finalement des communions spirituelles. Elle ne peut pas assister à la messe, elle n'est pas à la chapelle, elle est au fond de son lit, et pourtant elle peut recevoir beaucoup de grâces. Et notre Seigneur va lui apprendre lui-même comment méditer. Elle pense que la messe est en train d'être célébrée à la chapelle, c'est voilà, c'est à telle heure. Bon, en ce moment, il y a la messe. Elle est dans son lit. Certains jours, gardant le lit, elle parle à la troisième personne. Certains jours, gardant le lit, comme elle ne pouvait assister à la messe, mais devait communier, dans la peine de son cœur, elle dit au Seigneur, « Voici mon bien-aimé que je ne puis attribuer qu'à vos divines dispositions d'être empêché aujourd'hui d'assister à la célébration de la messe. Mais alors, comment puis-je me préparer à recevoir votre corps et votre sang très saint, car je n'ai jamais vu de meilleure préparation que l'assistance à la messe, si on assiste pieusement à la messe, tout au début de la messe et jusqu'à la communion ?» Le fait d'assister pieusement à la messe, c'est la meilleure des préparations. Elle dit, moi si je ne peux pas assister à la messe, je n'ai pas cette préparation. Donc. À quoi le Seigneur répondit, puisque tu rejettes sur moi cette affaire, prête-moi attention, je vais te chanter un mélodieux et tendre épithalame. Apprends donc de moi que mon sang t'a racheté. Considère que tout l'espace des 30 années où j'ai peiné pour toi sur cette terre d'exil n'était qu'un temps d'ambassade, préparant nos épousailles. Ceci te tiendra lieu de première partie de la messe. Voilà. Première partie de la messe, donc je médite à ce. Apprends de moi que mon esprit t'a doté, et sache qu'après le labeur de mon humanité, pendant ces 30 années d'ambassade que je viens de te dire, la célébration spirituelle de nos noces, si pleine de joie et si désirée, m'a uni à toi. Ceci te tiendra lieu de deuxième partie de l'âme. Apprends aussi de moi que ma divinité t'a envahi, et sache que ma divinité a le pouvoir de procurer un bonheur spirituel intime, infiniment cher et doux, au milieu des souffrances extérieures du corps. Ceci te tiendra lieu de troisième partie de la messe. Apprends encore de moi que mon amour te sanctifie et sache que tu ne tiens de toi rien, mais de moi tout, par où tu puisses me plaire. Ceci te tiendra lieu de quatrième partie de la messe. Apprends enfin de moi que notre union te transforme et sache que toute puissance m'ayant été donnée au ciel et sur la terre, rien ne peut m'empêcher, selon mon bon plaisir, de t'exalter avec moi. Celle qui partage le lit du roi doit être appelée reine et en recevoir les honneurs. Ainsi, mets ta joie à méditer ces choses et ne te plains plus d'avoir manqué la messe. Bon. Je vais vous donner la référence du livre, hein, pour que vous puissiez retrouver ça. C'est un livre écrit par Sœur Marie Pascal qui s'intitule « Initiation à Sainte Gertrude » aux éditions du CERF. Je crois que c'est cette année qu'il faut le lire, hein, pour le 7e centenaire de sa mort. Donc ce sont des morceaux choisis avec quelques commentaires introductifs intéressants. Donc c'est Initiation à Sainte Gertrude, Sœur Marie Pascal aux éditions du CERF. Je le laisserai sur cette table pour que vous puissiez prendre les références. Bien chers retraitants, il nous faut donc conclure que la messe c'est le soleil de notre vie, la communion c'est vraiment ce moyen extraordinaire d'être davantage unis chaque jour à notre Seigneur. C'est le gage de la vie éternelle. C'est la vie éternelle, cette vie de jouissance avec Dieu, de béatitude, et qui est déjà commencée. Alors nous devons pas nous habituer à la messe et à la communion. Vous voyez, au sens où nous serions dans la routine, au sens où ça nous serait dû. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose de gratuit. Et il faut savoir s'émerveiller. Alors n'hésitez pas à méditer sur les prières, comme je vous y ai invité. N'hésitez pas à lire des livres, un peu de doctrine sur la messe. Bon, vous savez qu'il y a suffisamment de livres qui ont été réédités, qui expliquent justement les trésors de la messe traditionnelle en particulier, et les raisons de notre combat pour la messe. Il faut comprendre ça. Si vous voulez être apôtre de la Sainte Messe, apôtre de l'Eucharistie, il faut que vous connaissiez bien la messe, que vous l'aimiez, que vous sachiez trouver les mots qui vont toucher les cœurs. Ouvrir les âmes. Nous allons maintenant nous rendre à la chapelle pour méditer un peu.